journal. Le grand journal. Steve Nadjar.
Radio J. Le 6-9. Lana Ferradian.
Radio J.
Il est 6h. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Nous sommes le mercredi 1er janvier 2025. J'avais hâte de donner cette date ce matin sur Radio J. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins. Chose hein, de dire qu'on est le 1er janvier d'une année, 1er janvier 2025. Comment ça va, Eva Soto?
Bah ça va, moi je pensais qu'en 2025 je serais déjà à la maison de retraite, mais je suis là.
Bonne année à vous et à vos proches, la santé, la parnassa comme on dit. Bonjour Greg.
Bonjour Yana.
Et bonne année aussi à vous.
Bonne année 2025 à tous.
Vous êtes bien amusé hier soir ou vous êtes resté sage comme une image?
Plutôt resté sage, un peu plus amusant que prévu, mais pas veillé trop tard.
Eh bien, écoutez, ça me fait très plaisir en tout cas de passer ce début d'année avec vous et toute l'année d'ailleurs qui va suivre. Bien sûr, on reste ensemble comme tous les matins, les amis, la Dream Team de Radio J, la matinale. Alors, évidemment, 1er janvier, qui dit 1er janvier dit aussi situation des otages, malheureusement, puisqu'ils ont été kidnappés en octobre 2023. Ils sont toujours otages en 2025. Alors, on pense forcément à eux et c'est notre vœu principal, la libération des otages ce matin. On va faire le point de l'actualité. Évidemment avec Éric Setton qui sera avec nous, médecin militaire, médecin de réserve pour un point de l'actualité notamment à Gaza. Notre dossier d'histoire également sur les juifs de Syrie. Et oui, à la lumière de ce qui se passe en Syrie, on s'est dit que c'était une bonne idée aussi de faire un petit focus sur l'histoire des juifs syriens. Et puis avant 7h, on va faire le bilan du cinéma français en 2024. Nous serons aussi avec Ilana Zagouri pour Les Secrets de Jérusalem. Mais d'abord, l'actualité, 453e jour de guerre suite à des tirs de roquettes. L'armée israélienne émet un avis d'évacuation pour la région d'Al-Bourej à Gaza.
Les sirènes qui ont retenti à minuit dans la région du Negev occidental, deux projectiles ont été identifiés en traversant la bande centrale de Gaza vers le territoire israélien. Un projectile a été intercepté avec succès et le second est tombé dans une zone inhabitée.
Et l'armée israélienne et le Shin Bet ont éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas qui a joué un rôle majeur dans les attaques du 7 octobre.
Le 7 octobre 2023, il a dirigé l'infiltration dans le kibboutz de Nir Oz et plusieurs autres ensuite contre les forces israéliennes à Gaza. Abd al-Hadi Sabah a été visé lors d'une frappe à Khan Younes. Des mesures ont été prises pour éviter les pertes civiles lors de cette opération avec l'utilisation de munitions de précision. L'élimination du commandant du Hamas n'est qu'une étape vers la justice, affirment les responsables du kibboutz de Nir Oz.
Une pause de 7 jours dans les combats pour faire la liste des otages, toujours au nombre de 100 à Gaza. C'est ce que propose en tout cas le Hamas.
Le groupe terroriste affirme qu'il n'est pas en mesure de produire la liste des otages encore vivants. Israël y tient de crainte que le Hamas ne puisse en tuer entre la conclusion d'un accord et leur libération. Le groupe terroriste n'aurait proposé que de permettre à Tsahal de rester déployé à Gaza pendant cette fameuse pause d'une semaine.
Une opération militaire terrestre contre les Houthis au Yémen en ce début d'année 2025. La presse libanaise et yéménite parle de préparatifs militaires suite à une proposition américaine.
L'opération serait menée par les forces soutenues par l'Arabie Saoudite et les Émirats et même avec l'hypothèse d'une coalition internationale. Dans ce cas plus vaste, opération motivée par les menaces sur le transport maritime en mer Rouge. L'opération aurait l'avantage d'affaiblir la milice Houthi pro-Iran qui attaque Israël à coups de missiles et de drones. L'analyse d'Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, au micro de Steve Nadjar.
Désormais, il y a une coalition visant à en réduire sa capacité de nuisance. Une coalition internationale, depuis maintenant un an, depuis que les attaques des Houthis ont ciblé la libre circulation dans le détroit de Mabin Mendeb et le long des côtes d'Arabie Saoudite, du Soudan et de l'Égypte et de l'Érythrée, et puis de plus récemment avec des frappes directement confirmées par l'État d'Israël contre les capacités de tir de missiles balistiques de la part des Houthis.
Par Par ailleurs, cette nuit, l'armée américaine a frappé des installations outils justement au Yémen utilisées pour attaquer des navires.
Benjamin Netanyahou, de retour lui à l'hôpital Hadassah. Il a quitté sa chambre hier contre l'avis des médecins après son opération de la prostate.
Le Premier ministre a voulu prendre part au vote d'une loi clé relative au budget de l'État. Le texte a finalement été adopté de justesse par 59 voix contre 58. Itamar Ben-Gvir qui a voulu faire barrage au texte en affirmant que son collègue des finances l'empêchait d'augmenter le salaire des policiers. Faute d'adoption du budget, le gouvernement Netanyahou risque de tomber.
Une campagne sur les réseaux sociaux dans le monde entier pour qu'Israël libère Oussam Abou Safia.
Des médecins du monde entier ont publié leurs photos en tenant des pancartes appelant à sa libération. Il s'agit du directeur de l'hôpital Kamal Adwan du nord de Gaza qui est suspecté d'être un membre du Hamas.
Le reste de l'actualité, antisémitisme, un homme armé arrêté pour avoir planifié d'attaquer un bureau de l'AIPAC en Floride.
Le lobby américain pro-israélien remercie le FBI d'avoir déjoué cet attentat. Nous prenons ces menaces très au sérieux et nous ne nous laisserons pas décourager dans notre mission visant à renforcer les relations avec Israël. C'est ce qu'ont déclaré les responsables de l'AIPAC.
Et puis enfin rapidement, les vœux d'Emmanuel Macron, le président qui s'est prêté pour la 8e fois à l'exercice hier soir.
Et il a fait son mea culpa sur son initiative de dissoudre l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron.
Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays, dans sa diversité et donc aussi dans ses divisions.
C'était donc les vœux du président Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Eva, à tout à l'heure sur Radio J. La météo de ce 1er janvier 2025. Ce matin, le ciel est gris entre la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne et Pays de la Loire, le centre-val de Loire, l'Île-de-France et le Hauts-de-France, ainsi qu'une partie du Grand Est. Les brouillards sont présents à l'est et sont souvent givrants. Le soleil, en revanche, brille en montagne et en Méditerranée. Et dans l'après-midi, un temps assez similaire. Côté température, il fait toujours assez froid. 8 degrés à Paris, 14 à Biarritz, le maximum, 6 à Bourges, le minimum. Et puis en Israël, alternance de soleil et de nuages, 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv, le max à Eilat avec 20 degrés.
Radio J, le 6-9, Lena Ferradio.
Merci de votre fidélité. 452e jour de guerre. On en parle évidemment ce matin. Il y a toujours 100 otages dans la bande de Gaza ce 1er janvier 2025. Et c'est envers eux que nos pensées vont évidemment ce matin. Nous sommes en ligne, en direct avec Éric Seton, lieutenant-colonel de réserve de Tsahal dans l'unité de secours 669. Bonjour.
Bonjour Ilana, bonjour aux auditeurs et bonne année.
Bonne année à vous, merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors justement peut-être, puisqu'on parle de la nouvelle année, c'est vrai je l'ai dit, il y a toujours 100 otages dans la bande de Gaza. C'est la priorité cette année 2025 d'Israël, du gouvernement israélien, Éric Seton, leur libération.
Tout à fait, c'est la priorité, c'est l'objectif de la guerre, un des objectifs de la guerre, avec le deuxième objectif qui est de détruire toute l'infrastructure du Hamas pour que les Israéliens qui vivent dans la porture de le bord de Gaza puissent vivre de façon calme et qu'il n'y ait plus de tirs de missiles et plus de menaces terroristes.
Alors,
les deux objectifs de la guerre, effectivement.
On va bien sûr parler des négociations pour les otages, mais sur le terrain, suite à des tirs de roquettes, l'armée israélienne a émis hier soir un avis d'évacuation pour la région d'Al-Bourej à Gaza. On voit une intensification quand même des combats à Gaza ces derniers jours. Alors, quels sont les principaux défis auxquels les troupes de Tsahal font face actuellement sur le terrain ?
Alors, premièrement, c'est de continuer. C'est une guerre urbaine. Une guerre urbaine, c'est très difficile à mener puisque c'est à l'intérieur d'une population civile qu'on essaie de protéger au maximum, avec des infrastructures extrêmement développées, comme vous l'avez vu, que ce soit des tunnels ou des hôpitaux qui servent aux terroristes de base. Comme le disait Mao Tse-tung, le terroriste doit être comme un poisson dans l'eau dans la société civile. Et c'est ce qui est très difficile à mener pour Israël, pour les soldats israéliens sur le terrain. Lorsqu'on rentre dans un hôpital, faire le tri entre des terroristes et des vrais blessés, certains se comportent comme des médecins, certains se comportent comme des blessés. Même le directeur de l'hôpital est suspect d'être un terroriste du Hamas. Donc, c'est ce qui est le plus difficile à faire dans des structures qui sont des structures civiles. La deuxième chose, c'est également de mener une guerre où chaque endroit, chaque ruine peut être un endroit où peuvent se cacher les terroristes. Et ça, Israël continue à le mener avec une exigence très importante de protéger la population civile.
Alors, on parle aussi, malheureusement, de la perte de ces soldats. Depuis le 7 octobre 2023, ce sont 825 soldats qui ont été tués. Vous êtes médecin, donc vous êtes au contact direct, hein, j'imagine bien, des blessés de guerre et aussi des familles endeuillées. Est-ce que ces pertes affectent la cohésion et le moral des troupes? Et comment l'armée travaille-t-elle peut-être à maintenir ce moral?
Alors, c'est sûr que c'est difficile à accepter. C'est 825 soldats qui sont tués, qui ont été tués. Il y a également le blessé. Hier, justement, je visitais encore le service de rééducation orthopédique à l'hôpital Sheba, où sont hospitalisés de nombreux blessés avec des amputations des bras, de jambes, avec un moral excellent. Tzal reste résiliente avec une détermination à atteindre ses objectifs. Et la façon dont on mène ça, c'est premièrement mettre un traitement médical au plus proche des soldats, vraiment sur le terrain, très très proche des soldats, à réussir à faire une évacuation médicale aéroportée et par voie terrestre le plus rapidement possible. C'est-à-dire, on arrive à ce que le blessé, du moment où il est blessé sur le terrain jusqu'à son arrivée à l'hôpital, moins d'une demi-heure, 30 à 40 minutes, jusqu'à ce qu'il se retrouve en salle d'opération. Donc ça permet de sauver énormément de vies. On a beaucoup plus de sauvetage de vies, de soldats qui ont réussi à être sauvés. Et donc ça marque fortement les soldats. Et certains même, après avoir été blessés, reviennent sur le terrain parce qu'ils ont un moral vraiment extraordinaire.
Alors, un moral extraordinaire, mais c'est vrai qu'une partie des soldats souffrent de stress post-traumatique. Il y a ces blessures psychologiques aussi. On a l'impression que c'est un sujet un peu tabou en Israël. Est-ce que c'est le cas, Eric?
Ah non, alors pas du tout. Justement, on en parle beaucoup, puisque le moral des troupes, c'est une priorité pour Tzal. On utilise des unités spécialisées en soutien psychologique qui accompagnent les soldats sur le terrain, qui offrent un suivi régulier. De plus, surtout, on joue sur la solidarité et l'esprit de camaraderie entre les soldats pour maintenir une forte résilience. On maintient également, on établit également des programmes pour soutenir les familles des soldats et ça contribue à renforcer le moral. Et le plus important, c'est enseigner aux soldats même et à leurs camarades à essayer de voir quand d'identifier les symptômes de stress post-traumatique pour le traitement le plus rapide possible.
Alors, on évoquait aussi la situation des otages hein, tout à l'heure, et c'est vrai que pour l'instant, les négociations sont dans l'impasse. Le Hamas demande à Tzal de faire une pause, notamment sur le terrain, pour pouvoir lister ceux qui sont encore présents, les otages présents dans la bande de Gaza. Avec quel regard vous observez cette situation? Est-ce que vous espérez encore qu'on puisse conclure un accord avec le Hamas?
Alors, pour Israël, les négociations pour libérer les otages, ça reste une priorité absolue. Mais chaque effort qui est entrepris, soit par des canaux diplomatiques, des intermédiaires ou des opérations de renseignement, est important. Seulement, je crois personnellement, je trouve que le Hamas utilise les otages plutôt comme un levier politique pour essayer d'influencer la société israélienne. Et non pas avec une véritable volonté de libérer les otages. Et malheureusement, je suis assez pessimiste. Je crois que le Hamas actuellement n'a plus beaucoup à perdre et essaye en fait de les utiliser plutôt que de vraiment libérer les otages.
Alors très rapidement, on n'aura pas forcément le temps de bien développer, mais sur les outils du Yémen, une opération militaire terrestre en ce début d'année, on l'a vu, les troupes américaines notamment ont attaqué des cibles outils. C'est important ce soutien des États-Unis, ce soutien international. C'est ce qu'il faut dire au monde, que les outils, ce n'est pas seulement le problème d'Israël.
Tout à fait. Les Houthis, c'est un problème pour l'Arabie Saoudite. On se rappelle que l'Arabie Saoudite avait combattu ces terroristes pendant plusieurs années, pas toujours avec succès. Mais c'est également un problème immense pour l'Occident, pour l'Europe, puisque le transport maritime passe par les côtes yéménites. Et c'est également un problème pour la Chine, puisque le commerce chinois est également affecté. Donc tout le monde est affecté par les Houthis et Israël se retrouve seul devant cette menace. Et il y a une coalition internationale où notamment également les Britanniques.
Merci.
À côté des Américains.
Merci beaucoup Eric Seton. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
6h15, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Encore des tirs de roquettes contre les communautés du pourtour de la bande de Gaza. Cette nuit, l'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation pour la région d'Al-Bourej à Gaza. L'armée et le Shin Bet ont éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas, un homme qui a joué un rôle majeur dans les attaques du 7 octobre. Ce terroriste a dirigé l'infiltration dans le kibbutz Niroz. Une pause de 7 jours dans les combats pour faire la liste des otages, toujours 100 à Gaza, c'est ce que propose le Hamas. Le groupe terroriste affirme qu'il n'est pas en mesure actuellement de produire la liste des otages encore vivants. Une opération militaire terrestre contre les Houthis au Yémen en ce début d'année 2025. En tout cas, la presse libanaise et yéménite parle de préparatifs militaires. Antisémitisme, un homme armé a été arrêté aux États-Unis en Floride. Il planifiait d'attaquer un bureau de l'AIPAC.
Merci beaucoup Eva, on vous retrouve tout à l'heure sur Radio J.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Et oui, notre dossier d'histoire sur les Juifs syriens à suivre dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est Shirim, la chanson israélienne du jour. On va écouter cet artiste qu'on adore, très populaire en Israël, Avraham Tal, Im At Olechet. Excellente année à vous et excellent réveil.
Im At Olechet, oh Im At Chozeret, Shigamer Yomech Betov, Yotzet El Aderech, Niret Meusher. ליבי איתך לכל היום אז אני שר הכאב להירפר.
ולחוות אחד אל תשני ואחד
אחד אל תשני. תני לו את הלב ומחכה, תני לכאב להירפר.
ולחוות אחד אל תשני ואחד
אחד אל תשני. אז אם את הולך
Avraham Tal sur Radio J.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J après une plongée la semaine dernière dans l'histoire des Juifs du Yémen. Chronique que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr. Ce matin, nous souhaitions aussi nous intéresser à l'histoire fascinante des Juifs de Syrie. Une communauté dont les racines remontent à l'Antiquité et qui a joué un rôle significatif dans le tissu culturel et religieux de la région. À la lumière des récents bouleversements en Syrie, avec la chute du régime de Bachar el-Assad après 54 ans de règne familial sans partage et actuellement une occupation temporaire partielle du territoire syrien par Israël pour contrer l'avancée des djihadistes qui ont renversé ce régime. C'est l'occasion de revisiter cette histoire riche et complexe. Il faut dire que les Juifs de Syrie, c'est une histoire qui remonte à l'Antiquité et bien avant, dès le 6e siècle avant notre ère, après la destruction du premier temple à Jérusalem, des communautés juives s'installent dans les grandes cités syriennes, notamment à Alep et à Damas. Ces villes deviennent des foyers de la culture juive, des lieux où les traditions se mêlent à celles des peuples voisins. L'emblème de cette présence, c'est bien sûr le célèbre codex d'Alep, également le Keter Aram Tsova, la plus ancienne version connue de la Torah, écrite entre 910 et 930 de notre ère. Mais la vie des Juifs syriens ne se limite pas à la spiritualité et vassotos, ils sont aussi commerçants, artisans, médecins et parfois conseillers influents dans les cours locales.
Un élément central de cette culture juive antique, c'est la synagogue Eliyahu Hanavi de Jobar à Damas, très réputé. Le lieu de culte est ainsi décrit par le voyageur Benjamin II dans ses archives comme un établissement majestueux, une structure ancienne avec ses 13 colonnes de marbre. Selon la tradition juive, le prophète Élisée y aurait même trouvé refuge dans une grotte située sous cette synagogue. La communauté juive syrienne se composait alors principalement de deux groupes, les juifs Moustarabi, présents depuis les temps anciens, et les juifs séfarades, arrivés après leur expulsion d'Espagne en 1492.
Et des siècles après leur arrivée sous la domination ottomane, les juifs de Syrie, comme d'autres communautés non musulmanes, étaient considérés comme des dhimmis bénéficiant d'une protection en échange du paiement de la jizya, une taxe spécifique.
Et malgré ce statut, ils ont souvent prospéré en tant que commerçants, artisans et financiers, établissant des réseaux commerciaux étendus. Justement, du XVIIe au XIXe siècle, plusieurs juifs d'origine espagnole et italienne se sont installés en Syrie pour des raisons commerciales, mais conservaient leur nationalité européenne afin d'être sous la juridiction des tribunaux consulaires conformément aux capitulations ottomanes, plutôt que d'être traités comme des dhimmis sous la loi islamique. Ces juifs européens, connus sous le nom de Señores Francos, seigneurs francs, maintenait un sentiment de supériorité sociale par rapport aux juifs autochtones.
Par ailleurs, au XIXe siècle, des voyageurs occidentaux ont visité la Syrie, ont documenté leurs observations sur les communautés juives locales.
Oui, en 1853, des voyageurs indiquent que dans le gouvernement municipal de Damas, deux chrétiens et un juif occupaient des postes et la population juive était alors estimée à environ 4000 personnes, dont seulement 1000 payaient la dîma. Cependant, cette cohabitation a souvent été marquée par des tensions. Le 19e siècle, justement, est un tournant. Le 5 février 1840, la tristement célèbre affaire de Damas éclate. un prêtre capucin disparaît et les juifs sont accusés de crimes rituels.
Tout à fait. Un moine capucin d'origine sarde, le père Thomas de Compagnano, très apprécié, qui disparaît mystérieusement, tout comme son serviteur, alors qu'il habite dans les lieux depuis une trentaine d'années. Même si Damas et la Syrie sont sous le contrôle du vice-roi d'Égypte, les capucins sont placés, eux, sous la protection de la France. Et donc, c'est la France qui va notamment enquêter. Le gouverneur de la ville, Chérif Pacha, s'appuie, lui, sur une folle rumeur qui s'étend à Damas et qui a sans doute été lancée par des chrétiens d'abord. Ce sont les juifs qui auraient tué le religieux. Ils commettraient même d'autres meurtres de chrétiens et utiliseraient leur sang dans la préparation du pain azim pour Pessah.
Plusieurs juifs sont arrêtés. L'un d'eux, un barbier, avoue sous la torture avoir été sollicité pour tuer le moine franciscain, moyennant rétribution. Mais il assure ne pas avoir commis l'assassinat. 7 autres juifs sont arrêtés et emprisonnés, dont le grand rabbin de Damas et des notables juifs. Demeure sous les coups des bourreaux. En parallèle, la population de Damas pille une synagogue et détruit des rouleaux de la Torah.
Et alors que la situation s'embrase contre les juifs de Syrie, le consul de France est également certain que ce sont eux qui ont tué le père Thomas de Compagnano, mais sans la moindre preuve. Très vite, toutefois, l'affaire fait la une de l'actualité en France, notamment dans la presse. La presse qui est alors en plein essor, une partie d'entre elles, catholique, très importante, mène une campagne contre les juifs, alors qu'une autre, moins conservatrice, plus libérale, comme Le Siècle, les défend. Et ces oppositions tranchées hein, dans l'affaire de Damas vont représenter les prémices de ce que ce sera des années plus tard, de ce que deviendra plus tard en tout cas l'affaire Dreyfus, comme l'a écrit l'historienne Rina Cohen dans un article publié en 2001, l'affaire de Damas et les prémices de l'antisémitisme moderne.
À l'époque, par ailleurs, les juifs de toute l'Europe, notamment en France, se mobilisent. En Autriche, notamment, Salomon de Rothschild, qui dirige la filiale de la banque à Vienne, s'adresse au chancelier Metternich, qui intervient auprès du pape à Rome et des autorités égyptiennes. Après tractation, le consul autrichien à Damas conclut dans un rapport que les juifs ne sont pas les auteurs du meurtre. Suite à cela, une délégation franco-anglaise se rend en Égypte en août 1840 pour demander au vice-roi la libération des accusés.
Et au sein de cette délégation côté français, on retrouve l'avocat Adolphe Crémieux. Côté britannique, l'industriel et philanthrope juif Moïse Montefiore. Les négociations sont longues et finalement, le 6 septembre 1840, le président syrien fait enfin libérer les 9 prisonniers juifs survivants sur les 13 accusés arrêtés sans pour autant proclamer leur innocence.
Cette affaire permettra en partie la création en France, quelques années plus tard, en 1860, de l'Alliance israélite universelle, qui sera d'ailleurs présidée par Adolphe Crémieux jusqu'à sa mort en 1880. Et puis cette affaire de Damas a aussi permis l'émergence d'une presse juive, notamment du plus vieux journal juif publié, The Jewish Chronicles, fondé en 1841 et basé à Londres, qui existe d'ailleurs toujours.
Tout à fait. Alors au XXe siècle, la situation va empirer, en tout cas pour les juifs de Syrie. L'indépendance du pays en 1946, suivie de la fondation de l'État d'Israël en 1948, provoque un regain d'hostilité envers les juifs syriens. Ils deviennent des boucs émissaires. Les pogroms de 1947, en particulier à Alep, vont précipiter leur départ. Synagogues brûlées, commerces pillés. C'est un adieu forcé à une terre qu'ils ont habitée pendant des siècles.
La plupart choisissent l'Alia, rejoignant Israël malgré les restrictions syriennes, souvent au péril de leur vie. D'autres se sont exilés vers les États-Unis ou l'Amérique latine surtout, mais la plus grande diaspora réside à New York, aux États-Unis. En 2011, il restait environ 250 juifs vivant en Syrie, principalement à Damas. En octobre 2015, avec la menace de Daesh, presque tous les juifs restants à Alep ont été sauvés lors d'une opération clandestine et emmenés à Ashkelon en Israël. En cette fin d'année 2024, 9 juifs très âgés seulement vivent encore en Syrie. Avec la chute du régime de Bachar al-Assad, ils expriment l'espoir de voir les synagogues reconstruites et le retour au pays de leur co-religionnaire l'ayant fui.
Et tout à fait, d'ailleurs, le président de la communauté de la synagogue de Jobar, hein, dont on a parlé au début, est revenu ces derniers jours sur sa terre ancestrale pour visiter cette synagogue. Alors, une fois les juifs partis, les relations entre la Syrie et Israël se sont envenimées. Hein, Eva, la guerre d'indépendance de 1948, la guerre des six jours en 67, lors de laquelle Israël a conquis le plateau du Golan et le conflit de 1973 ont marqué des décennies de confrontations directes. Par ailleurs, l'alliance entre la Syrie et l'Iran, renforcée sous Bachar el-Assad, a été un élément clé de la confrontation avec l'État juif.
Par ailleurs, le criminel de guerre nazi autrichien Alois Brunner a trouvé refuge en Syrie dans les années 50 après avoir échappé aux alliés. L'homme a été protégé par le gouvernement syrien qui, de son côté, a exploité les idéologies nazies et leurs pratiques de violence systématique pour se maintenir au pouvoir et terroriser les opposants sur place, notamment avec la création de la fameuse prison de Sednaya. En 1980, Israël a demandé l'extradition du nazi Alois Brunner, mais il est resté en Syrie jusqu'à sa mort dans les années 90.
Et depuis les années 80, la Syrie a parallèlement établi des liens solides avec l'Iran, notamment en soutenant le Hezbollah, l'Iran qui en effet fournit un soutien militaire massif à la Syrie en envoyant des troupes et des milices pour soutenir le régime de Damas, une proximité qui a exacerbé les tensions avec Israël, qui a intensifié ses frappes aériennes en Syrie. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors que le régime de Bachar el-Assad est tombé, que la Syrie est fragmentée par une guerre civile qui dure depuis plus d'une décennie, la question se pose, quelle sera la place d'Israël dans cette nouvelle configuration ? Certains analystes estiment qu'une présence israélienne plus visible dans certaines régions, combinée à une politique de sécurité affirmée, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles dynamiques. Mais l'influence d'Erdogan sur les nouveaux maîtres de la Syrie inquiète aussi Jérusalem.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 6h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre ce matin. Ce mercredi 1er janvier 2025, nous sommes le 1er janvier 2025, il y a toujours 100 otages dans la bande de Gaza. Avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
453e jour de guerre en effet, et suite à des tirs de roquettes hier soir, l'armée israélienne a émis un avis d'évacuation pour la région d'Al-Bourej à Gaza.
Les sirènes ont retenti à minuit dans les régions frontalières avec la bande de Gaza en Israël. Deux projectiles ont été identifiés traversant la bande centrale de Gaza vers le territoire israélien. L'un d'entre eux a été intercepté avec succès, le second est tombé dans une zone inhabitée.
L'armée israélienne et le Shin Bet ont éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas qui a joué un rôle majeur dans les attaques du 7 octobre.
Il a dirigé l'infiltration dans le kibboutz Nir Oz lors des massacres antisémites de l'année dernière commis par le Hamas et plusieurs autres attaques également contre les forces israéliennes à Gaza. Abdel Al-Hadi Saba a été visé donc lors d'une frappe à Khan Younes. Des mesures ont été prises pour éviter les pertes civiles avec l'utilisation de munitions de précision. L'élimination du commandant du Hamas n'est qu'une étape vers la justice, affirment les responsables du kibboutz de Nir Oz.
Une pause de 7 jours dans les combats par ailleurs pour faire la liste des otages, toujours au nombre de 100 à Gaza. C'est ce que propose le Hamas.
Le groupe terroriste affirme qu'il n'est pas en mesure de produire la liste des otages encore vivants. Israël y tient de crainte que le Hamas ne puisse en tuer entre la conclusion d'un accord et leur libération. Le groupe terroriste n'aurait proposé que de permettre à Tsahal de rester déployé à Gaza pendant cette fameuse pause d'une semaine.
Et puis une opération militaire terrestre contre les Houthis au Yémen en ce début d'année. La presse libanaise et yéménite parle de préparatifs militaires suite à une proposition américaine.
L'opération serait menée par les forces soutenues par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et même avec l'hypothèse d'une coalition internationale. Opération qui aurait aussi l'avantage d'affaiblir la milice Houthi pro-Iran qui attaque Israël à coups de missiles et de drones. L'analyse d'Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, au micro de Steve Nadjar.
Désormais, il y a une coalition visant à en réduire sa capacité de nuisance. Une coalition internationale, depuis maintenant un an, depuis que les attaques des Houthis ont ciblé la libre circulation dans le détroit de Mabendab et le long des côtes donc d'Arabie Saoudite, du Soudan et de l'Égypte et de l'Érythrée, et puis de plus récemment avec des frappes directement confirmées par l'État d'Israël contre les capacités de tir de missiles balistiques de la part des Houthis.
Par ailleurs, cette nuit, l'armée américaine a frappé des installations Houthis au Yémen utilisées justement pour attaquer des navires.
Benjamin Netanyahou, lui, de retour à l'hôpital Hadassah, il a quitté sa chambre hier contre l'avis des médecins après son opération de la prostate.
Le Premier ministre a tenu à prendre part au vote d'une loi clé relative au budget de l'État. Le texte a été adopté de justesse par 59 voix contre 58. Itamar Ben-Gvir y a fait barrage. Faute d'adoption du budget, le gouvernement Netanyahou risque de tomber.
Une campagne sur les réseaux sociaux dans le monde entier pour qu'Israël libère Oussama Abou Safia.
Des médecins du monde entier qui ont publié des photos d'eux-mêmes tenant des pancartes appelant à sa libération. Oussama Abou Safia, c'est le directeur de l'hôpital Kamal Adwan du nord de Gaza et il est suspecté d'être un membre du Hamas. Tsahal a arrêté près de 240 terroristes dans ce centre médical.
Le reste de l'actualité de l'antisémitisme aux États-Unis, un homme armé arrêté pour avoir planifié d'attaquer un bureau de l'AIPAC en Floride.
Le lobby américain pro-israélien remercie le FBI d'avoir déjoué l'attentat. Nous ne nous laisserons pas décourager par les extrémistes dans notre mission visant à renforcer les relations avec Israël, ont déclaré les responsables de l'AIPAC.
Et puis enfin en France, les vœux d'Emmanuel Macron, le président qui s'est prêté pour la 8e fois à l'exercice hier soir.
Et c'est la première fois qu'il s'exprimait depuis la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. Il a fait son mea culpa sur son initiative de dissoudre l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron.
Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays, dans sa diversité, et donc aussi dans ses divisions.
C'était donc Emmanuel Macron pour ses vœux, donc hier soir.
Merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve dans 10 petites minutes à 6h45 sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Vous nous rejoignez sur Radio J, 1er janvier 2025. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cette nouvelle année civile, avec évidemment en priorité la paix en Israël et la libération des otages à Gaza. Vous le savez, ce soir, c'est le dernier allumage de la Hanoukia, 8e bougie, allumage public prévu à 18h, place de l'Opéra dans le 9e arrondissement. Et nous retrouvons le Dvar Torah du jour avec le rabbin Mevorar Zerbi. Brave, bonjour.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Chodesh Tov Mevorar. Hanouka Sameach, et puis Shana Civil, Shana Fiscal Tova. Oui, parce que c'est l'année fiscale. Alors, pourquoi l'année fiscale? C'est important pour les dons, évidemment, comme ça, moi, vous allez faire plus de dons. Kadosh Baruch Hu vous donne beaucoup d'argent pour que vous puissiez plus donner, et voilà, et que c'est une belle mitzvah de pouvoir donner. Alors nous sommes aujourd'hui le jour de Rosh Chodesh Tevet, le premier Tevet. Alors premier Tevet, c'est un jour très 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 particulier, puisque c'est la Eloula, d'après certains, d'un des personnages, on va dire, clés de toute l'histoire, personnage clé de l'histoire. Il s'agit d'Abraham. Abraham qui naît en 1948 et qui est niftar en 2123. Il a vécu 75 ans. Son père s'appelait Terar, sa mère s'appelait Amtalai Bat Karnebo. Ah oui, c'est comme c'est marqué dans le traité Baba Batra. Amtalai Bat Karnebo, le nom de la maman d'Abraham. Alors, quelle est la référence? C'est peu discuté parce que certains disent que les patriarches sont nés soit au mois de Nissan, soit au mois de Tishri, mais personne n'a parlé du mois de Tevet. Alors, il y a un verset qui dit Tikaver Besevatova, Dieu annonce à Abraham qui va être enterré dans une belle vieillesse, et Tikaver Besevatova, ça fait Tevet, et une tradition veut nous dire que le premier Tevet, c'est le jour anniversaire de la disparition d'Abraham, Abraham notre patriarche. Alors certains vont dire, en fait non, et si c'est au mois de Nissan, il y a Niftar le 10 Nissan, parce que le 10 Nissan correspond au mois de Tevet, puisqu'il y a les 12 premiers jours du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois de Aviv, le mois du printemps, mais Av Yud Bet, le père des 12 mois, et il se passe au mois de Nissan le... il va se passer en projection dans les 12 mois de l'année. Et ce qui se passe le 10 Nissan, eh bien, c'est en rapport avec le mois de Tevet, qui est le 10e mois de l'année, puisqu'on compte les mois à partir du mois de Nissan. D'ailleurs, dixième mois, il y avait aussi une correspondance. Hein, le mois de décembre, c'est le 10e mois, aussi, quelque part. Hein, donc, il y a une correspondance remarquable. Novembre, le 9e mois, octobre, le 8e mois, et septembre, le 7e mois, qui correspond à Tishri, Rejvan, qui se lève, et Tevet. Voilà le... Alors, Rosh Chodesh Tevet, dans les communautés tunisiennes, c'est notamment que tunisienne, mais pas seulement, la fête des filles. La fête des filles, parce que c'est le jour où Esther, chapitre 2, verset 16 d'Esther, Esther a été prise en l'an 3400 au royaume, au palais royal, pour devenir la reine, et qui va être donc une actrice principale pour l'histoire de Pourim, pour le sauvetage des enfants d'Israël à Pourim. Alors c'est aussi, au niveau de la Hiloula de Tzadikim, un tzadik qui s'appelle Rabbi Yosef Ibn Teboul El-Ma'ravi. Rabbi Yosef Ibn Teboul El-Ma'ravi est un rav qui était originaire d'Afrique du Nord, et qui est monté en Israël, qui a vécu à Tzfat à l'époque du Harizal, dont il a été l'un des élèves les plus proches, et oui, un des élèves les plus proches du Harizal. Et il va après retourner en Tunisie, à côté de Gabès, El-Hamma, c'est là où il est enterré. Et il y a, alors, j'ai deux versions, 1610, 1616, dans ces eaux-là en tout cas, un grand sadique, avec beaucoup de miracles, beaucoup de une grande pensée, une grande puissance, une grande kedusha. En ce jour du septième jour de Hanouka, en ce jour de Rosh Chodesh Tevet, premier jour du mois de Tevet, le mois du Tov, le mois du bon, le seul Rosh Chodesh de l'année où on fait le Hallel en entier, c'est pas rien. Et sans tourner, Chodesh Tov Mevorach et Hanouka Sameach.
Du rabbin Mevorar Zerbib, Chag Sameach.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
A tout à l'heure.
Radio J.
Radio. Le 6-9, Ilana Ferradian.
6h40 minutes, Micro-Sion, votre carte postale d'Israël avec Xavier Nataf.
Souvent citée dans la Bible, la Galilée est une large région située dans le nord d'Israël. Elle possède des températures douces et une pluviométrie à même d'alimenter quelques cours d'eau et propre à l'agriculture. La Galilée englobe plus d'un tiers du territoire d'Israël, s'étendant de Dan au nord, au pied du mont Hermon, jusqu'au mont Carmel et Guiboa au sud, et de la vallée du Jourdain à l'est, jusqu'aux abords de la Méditerranée à l'ouest, en passant par les plaines de Jezreel et de Akko. À la suite de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, la Galilée devint le centre spirituel du judaïsme. Elle abrita le Sanhédrin. Dans ses collines furent rédigées la Mishnah et le Talmud de Jérusalem. De nombreux rabbins y vécurent et y sont enterrés. Au cours du XVIe siècle, la Galilée a connu une importante migration juive constituée essentiellement de séfarades expulsés de la péninsule ibérique. Sous leur impulsion, la ville de Safed est devenue le centre mondial du mysticisme juif et de la diffusion de la Kabbale. Dans les années 50-60, les kibboutz autour de la mer de Galilée subirent régulièrement des bombardements de l'artillerie de l'armée syrienne depuis le plateau du Golan qui domine la région. Ces frappes syriennes cessèrent quand Israël envahit le plateau au cours de la guerre des Six Jours en 1967, puis l'annexa le 14 décembre 1981. De nos jours, la vie religieuse reste active à Safed et côtoie celle d'artistes qui exposent leurs œuvres aux touristes. Il s'y déroule également un festival annuel de musique lesmer, mondialement connu.
Micro-Sion, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation Sioniste Mondiale.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J. C'est la nouvelle année, 1er janvier 2025. Alors que nous célébrons le passage à une nouvelle année, eh bien, Une information pour vous, une information que l'on devrait donner plus souvent à chaque nouveau début d'année. Saviez-vous, chère Eva, que le 1er janvier autrefois portait un nom qui pourrait bien faire lever quelques sourcils ? Il s'agissait de la fête du Saint-Prépuce.
Il n'y a peut-être pas que les sourcils que ça va faire lever, voilà.
Mais oui, vous avez bien entendu. Avant de sourire, il faut regarder de plus près. Cette journée marquait en réalité une fête juive très sérieuse, celle de la circoncision de Jésus. Bah oui, célébré jusqu'en 1970 dans le calendrier même catholique. Pourquoi le 1er janvier ? Parce que selon la tradition juive, tout garçon doit être circoncis quelques jours après sa naissance. Et Jésus, né juif, n'y échappe tout simplement pas. C'est un détail important qu'il est bon de rappeler, surtout à l'heure où certains, dans une dérive idéologique, tentent de réécrire l'histoire en prétendant que Jésus était palestinien et non judéen. Donc non seulement une erreur historique, mais un effacement aussi de ses racines juives. Et alors, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'au Moyen-Âge, certains lieux prétendaient posséder la relique du prépuce de Jésus. Plusieurs églises et monastères en Europe ont prétendu posséder ce saint prépuce, des reliques qui étaient considérées comme des objets de grande vénération et qui attiraient aussi de nombreux pèlerins. La relique la plus célèbre était conservée apparemment à Calcata en Italie, jusqu'à ce qu'elle disparaisse mystérieusement dans les années 1980. Mais qui a volé le prépuce de Jésus ? Certains disent qu'elle a été volée, en effet, d'autres qu'elle a été mise à l'abri par l'Église pour éviter les moqueries ou les scandales. Voilà donc pour la signification du 1er janvier. Alors, 1er janvier 2025, vous le savez, chaque année, il y a beaucoup de choses qui changent. Réforme des retraites, l'âge légal va passer, on le sait, à 64 ans. Interdiction des locations énergivores, revalorisation des aides sociales, le SMIC qui augmente de 1,8%, le chômage, nouvelles règles d'indemnisation, et puis enfin, bonne nouvelle pour les fumeurs, les prix du tabac n'augmenteront pas cette année.
Ah bah super.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
J'aime beaucoup ce naturel. 6h45, l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. 453e jour de guerre et des tirs de roquettes cette nuit à minuit même dans la région du Néguev occidental. Les sirènes ont retenti. Deux projectiles ont été identifiés traversant la bande de Gaza. Un a été intercepté avec succès, l'autre est tombé dans une zone inhabitée. L'armée et le Shin Bet ont éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas. Il a joué un rôle majeur dans les attaques du 7 octobre. C'est celui qui a organisé l'infiltration dans le kibboutz de Nir Oz. Une opération militaire terrestre contre les Houthis au Yémen en ce début d'année 2025. En tout cas, la presse libanaise et yéménite parle de préparatifs militaires. Binyamin Netanyahou de retour à l'hôpital Hadassah. Il a quitté sa chambre hier contre l'avis des médecins après son opération de la prostate pour participer au vote d'une loi clé relative au budget de l'État. Le texte a été adopté de justesse par 59 voix contre 58.
Merci Eva Soto, on vous retrouve tout à l'heure 7h15, 7h le journal d'Israël.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Mercredi, le jour du cinéma, et comme les sorties ne sont pas folles, on va pas se mentir cette semaine et qu'il y en a pas beaucoup, c'est l'occasion ce matin plutôt de plonger dans l'univers du 7e art, mais de dresser le bilan d'une année riche pour le cinéma français et plus largement le cinéma mondial. De la domination continue des plateformes de streaming aux questionnements sociétaux qui s'invitent sur grand écran, le cinéma semble plus que jamais réagir aux crises mondiales tout en explorant des territoires inédits. Et le grand bouleversement de cette année réside dans la montée en puissance des plateformes de streaming. Si 2024 n'a pas vu un renversement total de l'industrie cinématographique, elle a conforté cette tendance. Les services comme Netflix, Disney+, Amazon Prime ont produit des films originaux qui plaisent toujours autant. Selon les données de Statista, le nombre d'abonnés aux plateformes de streaming a continué de croître, atteignant près de 1,3 milliard d'abonnés mondiaux en 2024, consolidant donc leur rôle centrale dans l'écosystème cinématographique. Et cela a eu par ailleurs un impact quand même sur la fréquentation des salles de cinéma en France, notamment si les blockbusters continuent de cartonner. Le public semble désormais moins fidèle aux salles. Il faut dire aussi que les prix des places de cinéma sont de plus en plus chers. En 2024, la fréquentation des cinémas français a baissé de 10% par rapport à 2023, selon le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, un phénomène qui touche également d'autres régions du monde. Le mois de juin 2024 a enregistré une fréquentation exceptionnelle avec plus de 13 millions d'entrées, soit une hausse de 28,9% par rapport à juin 2023, le meilleur mois depuis 10 ans. Et puis enfin, plus de 181 millions de billets de cinéma ont été vendus en France en 2024. Cependant, la production de blockbusters, films à gros budget et franchises populaires reste l'un des moteurs financiers de l'industrie. Des films comme Avatar 2 ont explosé les records des box-office en 2024, prouvant que les spectateurs continuent de répondre présents pour les grandes productions visuellement impressionnantes. Avatar 2, donc, par exemple, qui a récolté plus de 2,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale, consolidant la place de James Cameron comme l'un des réalisateurs les plus rentables de l'histoire du cinéma. Des films à la fois divertissants et visuellement époustouflants qui semblent poursuivre leur ascension. Mais beaucoup d'analystes s'interrogent aussi sur la saturation à long terme de ces grandes sagas. Et oui, certaines voix dans l'industrie commencent à se faire entendre, plaidant pour plus de diversité, de prise de risques créatifs dans une industrie où l'effet de répétition des franchises commence à lasser certains spectateurs. Ces productions massives. 2024 a vu un renouveau du cinéma français. Un petit truc en plus d'Artus est devenu le plus gros succès de l'année 2024 avec 10,31 millions d'entrées, suivi de Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney qui a attiré 9,13 millions de spectateurs. Vice Versa 2 également a connu un grand succès, 8,26 millions d'entrées. Des productions qui offrent une alternative bienvenue à l'escalade des blockbusters américains. En outre, cette année a été marquée par une attention accrue à la diversité à l'écran, avec des films réalisés par des cinéastes femmes aux origines étrangères qui ont trouvé un écho à l'international. Et une autre caractéristique de 2024, c'est l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans le processus créatif généré pour des effets spéciaux ou pour aider dans la post-production. L'IA a montré son efficacité dans certains films où des personnages virtuels interagissaient de manière fluide avec des acteurs réels, notamment dans les films d'horreur cette année. Alors ça pose une question fondamentale pour l'avenir du métier de réalisateur et de scénariste. Jusqu'où l'intelligence artificielle pourra-t-elle remplacer la créativité humaine ? En bref, en rétrospective, 2024 est une année de transition pour le cinéma, l'industrie qui s'adapte à de nouveaux modes de consommation face à la domination des plateformes de streaming. Et les mois à venir seront sans doute ceux de l'innovation, avec de nouveaux formats, de nouvelles façons de consommer les films. Mais une chose est certaine, le cinéma, qu'il soit sur grand écran ou en ligne, continue d'être un miroir de notre société, un terrain de réflexion et d'évasion. Legacy sur Radio J. Excellent réveil et très bonne année.
Le 6-9. Radio J.
Radio J.
Et tout de suite, Chaim Nissenbaum pour un jour, une mitzvah. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 7e jour de la fête de Hanouka. Oui, déjà presque la fin. Eh bien, pour aujourd'hui, parlons donc de deux fêtes. Hanouka et Pourim, avec des traditions bien différentes. À Hanouka, les enfants jouent avec une toupie un peu particulière à quatre faces, dont chacune porte une lettre en hébreu, le Nun, le Gimel, le He, le Shin, initial des mots, Nes Gadol Ayasham, un grand miracle est arrivé là-bas. Le point à retenir, cependant, est qu'il s'agit d'une toupie. À Pourim, les enfants jouent avec des crécelles et font autant de bruit qu'ils le peuvent. Quel rapport ? Eh bien, réfléchissons un peu. Une toupie, à quoi cela ressemble-t-il ? Bien sûr, le corps de la toupie se trouve vers le bas et il est surmonté d'un bâtonnet qui permet de la saisir vers le haut. Une crécelle maintenant, c'est l'inverse. Le corps de la crécelle se trouve en haut et un bâtonnet le soutient qui sert à le tenir d'en bas. Ce que ça signifie ? Ces détails ne sont pas le fruit du hasard. Et ces deux instruments, la toupie et la crécelle, symbolise ici quelque chose de précis. À Hanouka, nous dit-on, les Juifs ne méritaient pas réellement leur libération. Le miracle fait par Dieu, ce fut précisément cela. C'est Dieu qui, dans sa bonté, les libéra. Sans cela, eux-mêmes n'en étaient pas capables. Le bâtonnet qui surmonte la toupie nous le rappelle, il fallait l'aide d'en haut. À Pourim, au contraire, les Juifs étaient sincèrement revenus à Dieu. Ils méritaient leur victoire. Le bâtonnet qui soutient d'en bas la crécelle en est le symbole. Dieu en haut et Juifs en bas. C'est dans ces deux jouets d'enfants tout le sens de notre univers que nous retrouvons. Bonne fête à tous.
Bonne fête, Rémi Sainte-Baume. On vous retrouve au quotidien sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre pour l'info trafic en région parisienne. Attention, si vous êtes à Paris, des personnes un peu alcoolisées peuvent se trouver sur votre chemin. Bah oui, lendemain de réveillon du nouvel an.
Bah oui, quand on passe sur la place de Clichy, il y a encore beaucoup de bars qui sont ouverts. Donc si vous êtes dans le coin, faites attention quand même. Voilà. Il y a des gens qui traversent la rue
Voilà, si vous êtes notamment en vélo, n'écrasez pas ces pauvres gens.
Et en voiture encore moins, écrasez-les encore moins.
Alors en tout cas, prévision pour ce week-end, notamment avec les retours des vacances. La circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau Vinci Autoroute dès demain en région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l'autoroute A10. C'est surtout dans le sens des retours à l'approche donc de l'Île-de-France que le trafic s'annonce assez important entre 11h et 21h et jusqu'à dimanche 5 janvier où un pic de circulation est attendu entre 15h et 16h dans le secteur également de l'A10 en direction du centre et de la façade atlantique. La circulation sera soutenue dès vendredi et jusqu'à dimanche. Idem sur l'autoroute A7 en vallée du Rhône, sur l'A9 également en région sud. Bien sûr, renseignez-vous avant de prendre la route, les amis. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Tout de suite, Ilana Zaghouri pour les secrets de Jérusalem, juste après le journal d'Israël avec les studios Qualita.
Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J, comme tous les matins et le mercredi, vous le savez, c'est la chronique Les Secrets de Jérusalem avec notre guide francophone en Israël, Ilana Zaghouri. Bonjour Ilana.
Ok, Tov Ilana, Chanukah Sameach.
Chanukah Sameach, de très belles fêtes de Chanukah. Et on allume en ce moment les dernières bougies. D'ailleurs, ce soir, ce sera le dernier allumage. Et en l'honneur de Chanukah, vous nous faites tourner aux quatre coins de Jérusalem. D'ailleurs, cette visite, vous l'avez renommée la visite de la toupie. Alors, ça a l'air très amusant. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, effectivement, la toupie, nous la connaissons avec ses quatre lettres, Nun, Gimel et Shin. Alors, outre la signification habituelle que nous connaissons, alors il y a une façon mnémotechnique de se rappeler des endroits où l'on peut retrouver les traces des Hashmonaïm de Hanouka.
Alors, on va peut-être commencer par une des lettres, la première lettre dont vous nous avez parlé.
Voilà, donc la première lettre, il s'agit de la lettre Nun. Nun comme native. Alors, native en hébreu, ça veut dire le procureur. Alors, il s'agit en fait, en vérité, du procureur britannique Herbert Samuel, qui est venu installer son bureau au sud de Jérusalem en 1930, lors du mandat britannique. Alors, sous ce quartier de Harmon Native, nous avons retrouvé un aqueduc long de plus de 20 km creusé dans la roche depuis la région de Bethléem pour acheminer de l'eau jusqu'au mont du Temple. Et cette construction monumentale, date justement de l'époque des Hashmonaïm. Donc, Nun comme native.
Alors, on passe à la deuxième lettre, c'est Gimel, hein, c'est ça?
Exactement. Donc, la deuxième lettre, c'est Gimel. Il s'agit du Gesher à Gadol. Donc, ce fameux Gesher, en vérité, cette fois-ci, se trouve à l'ouest du mont du Temple. Donc, un pont qui a été construit également par les Hashmonaïm. Alors, pour deux raisons. La première, c'est pour acheminer l'eau dont on vient de parler. Et puis, la deuxième, c'était pour faciliter l'accès au temple. Après la victoire contre les Grecs, les Hashmonaïm ont construit un pont qui relie la ville juste au mont du temple.
Et puis, il y a la lettre Hey, c'est ça?
Hey. Exactement. Hey comme Har Abayit, comme le mont du temple. Effectivement, sur le mur est du mont du temple, le mur oriental, cette fois-ci, opposé au côté de la Maharavi, on peut constater une partie du mur du mont du Temple de l'époque des Hashmonaïm. Il faut savoir qu'à l'époque des Hashmonaïm, le mont du Temple était plus petit que celui que l'on a aujourd'hui. Et on retrouve encore des traces de l'époque de Hanouka sur le côté oriental monde du temps.
C'est magnifique. Et puis enfin, il y a la dernière lettre, c'est le Shin.
Exactement, Shin comme Shmuel. Alors vous allez me dire, Shmuel, quel Shmuel? Ben, Shmuel Hanavi, le prophète, mais quel rapport? Ben, effectivement, sur les lieux du tombeau du prophète Shmuel, qui se trouve cette fois-ci maintenant au nord de Jérusalem, et ben, les Maccabim ont sur les lieux préparé une garnison sur l'axe principal qui servait en vérité d'entrée de la ville de Jérusalem. Donc, en vérité, c'est certainement un des facteurs qui leur a permis de gagner la victoire contre les Grecs parce qu'ils se sont installés sur l'endroit de Shmuel Hanavi.
Donc, assez extraordinaire. On a parcouru là les quatre facettes de la toupie. Hein.
Voilà, exactement. Donc, non seulement qu'on a parcouru les quatre facettes. Maintenant, il faut savoir qu'en Israël, on ne dit pas Nes Gadol Aya Sham, mais Nes Gadol Aya Po. Ça veut dire que le grand miracle n'a pas eu lieu là-bas, mais il a eu lieu ici. Donc, en Israël, la quatrième lettre, c'est le P. Alors, même pour ceux qui ont un P sur la toupie, ben, il y a aussi pour un autre site à visiter qui est très sympathique. Alors, cette fois-ci, c'est un peu rigolo, parce que le P, ben, il nous dit le parking. Alors, ben, c'est pas un parking pour venir se garer, évidemment. C'est le parking de Givati. On en a parlé une fois. Il se trouve sur le site de Yer David. Alors, en vérité, ce qui va se passer, c'est qu'en 2004, eh ben, ce parking va s'effondrer. Et des fouilles vont être actuellement, ils sont actuellement encore en cours. Et on a retrouvé des objets, des lances de guerre appartenant aux Grecs, une tour de contrôle des Hashmonaïm, encore plein d'autres découvertes sont dans cet endroit-là, qui se trouve sur le parking des Hashmonaïm.
Donc en quelques minutes, c'est assez incroyable, on a fait le tour des quatre points cardinaux de Jérusalem, Ilan.
Voilà, effectivement. Et bon, vous savez qu'il y a énormément de choses donc à découvrir à Jérusalem. Et une prochaine fois, on parlera de façon un peu plus précise de ces sites-là. C'est intéressant de savoir qu'au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, comme les quatre lettres de la toupie, on peut retrouver des fouilles archéologiques, des objets, des sites, des histoires qui nous parlent de Hanouka.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, Ilana Zaghouri, d'avoir été avec nous. Les secrets de Jérusalem, je vous dis Chag Sameach. Et on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.
Chag Sameach.